Donc vous imaginez, il s'est vraiment propagé.
Même dans le métro, il paraît.
Oui, on en trouve même dans le métro parisien.
Mais il prend l'avion,
aujourd'hui,
il
en France, très concrètement, on l'a vraiment repéré, mais peut-être que c'est peut-être plus, dans 78 départements français.
Alors, il ressemble à quoi?
Un tigre. Non, il est moustique, il est assez gros et il est rayé. Vous le voyez très bien, hein, si vous en attrapez un. Ce qui n'est pas évident, mais Clément, vous devez savoir.
Moi, je suis un spécialiste. Ouais. Mais celui-là m'a jamais piqué encore.
Il est clairement, franchement, honnêtement, vous le voyez sur votre main. Parfois, en été, si vous êtes souvent dans le sud de pourtour méditerranéen, ils sont rayés, ils sont très différenciables des autres. Alors, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu, c'est vraiment de l'actu toute fraîche. Là, on a eu un point presse avec la Direction Générale de la Santé et Santé Publique France à midi pour faire un point sur la dengue. Vous savez, c'est l'une des maladies qui est transmise justement par ce moustique tigre. On nous a contacté aujourd'hui parce qu'il est important de savoir qu'il y a une grosse épidémie de dengue actuellement.
Ça se traduit comment,
dans les Amériques.
42 fièvres.
Ouais, 42 fièvres. Ça peut durer une quinzaine de jours.
Ah, vous l'avez eu?
La convalescence.
Non, mais moi, je l'ai eu à la naissance.
Ah, voilà. Fièvre, nausée, douleur. Ça, c'est la forme la plus banale, on va dire. Fièvre, nausée, douleur. Ça peut durer une quinzaine de jours. Ça, c'est la forme la plus banale. Dans très,
on
très
peut
peu
en
de cas.
Mourir,
alors, 1% des cas, il y a des dengues hémorragiques. C'est très rare. Et là, effectivement, ça peut conduire au décès. Mais la forme la plus fréquente, c'est la forme classique dans laquelle, effectivement, c'est fièvre, douleur, etc. Aujourd'hui, donc, il y a une épidémie notamment dans les Antilles françaises. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a déjà eu plus de 1679 cas importés en France. C'est-à-dire des cas de gens qui ont été contaminés là-bas, mais diagnostiqués ici. L'année dernière, à la même période, il y en avait que 131. Donc, on est à 1600 aujourd'hui. En sachant qu'on va avoir les Jeux Olympiques, l'été qui va arriver, le moustique qui est un petit peu partout. Donc en gros, c'était pour nous rappeler, et vous rappeler, vous qui nous écoutez sur Europe 1, qu'il faut vraiment être tous prudents chez nous. Le moustique est quasiment partout.
Mais on peut se faire vacciner, on peut faire quelque chose.
Il y a un vaccin aujourd'hui qui existe. Pour l'instant, il n'y a pas de recommandation officielle. Elles vont sortir au mois de juin par la Haute Autorité de Santé. On saura qui doit se faire vacciner, à quel âge, quand, comment. Est-ce que quand on voyage, il faut le faire? On en saura plus au mois de juin. En tout cas, il y a un vaccin qui existe, oui, Sophie. Et sinon, protégez vos habitations, évidemment les répulsifs. Mais on le répète chaque année, mais faites-le vider, soulevez les pots de fleurs, videz les coupelles. C'est vraiment là que le moustique fait son nid. Et ça pond très vite. En une semaine, vous pouvez être envahi. Voilà, il vous pique, il suffit qu'il ait piqué quelqu'un avant qu'il revenait avec la dengue.
Voilà.
Et ça peut aller très vite.
Moi, j'ai une super idée. J'ai un ami qui nous écoute qui attrape tous les moustiques. Tu te balades avec lui, t'es jamais
un bon
piqué.
Ami qui
alors,
toujours piqué.
C'est la question que j'avais. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on a ce débat à chaque barbecue.
Ouais.
Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est le sang? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est toujours hyper
piqué? Je crois
qu'il y a
une histoire de transpiration. Comment
on dit le
de transpiration.
Moi, je ne leur plais pas du tout.
Moi, je leur plais beaucoup. Et vous, Clément?
Juste en Amérique du Sud, apparemment. Moi, je suis très exigeant dans le choix du moustique, moi.
Bon, Florence, est-ce que vous êtes prête pour tenter ce jackpot à 1 200 €?
Ah là là.
Il s'agit de me donner 10 bonnes réponses en moins d'une minute.
Oh, la pression, ça y est,
allez.
Je transpire.
Allez, Florence.
Faut plus l'aider en plus.
On vous souhaite bonne chance.
Ouais.
Et on vous conseille de passer à la question suivante si vous ne savez pas. Ok, Florence?
Ok.
Attention, top chrono. Quelle maladie est aussi le titre d'un grand roman d'Albert Camus?
La peste.
Brad Pitt a été en premier avec Jennifer Aniston ou Angelina Jolie?
Jennifer Aniston.
Brad Pitt au cinéma en 97 a joué dans Ces temps où? Dans Ces temps ou quoi?
Sept ans.
Passé.
Les Fourberies de Scapin, c'est en 3 ou 5 actes?
5.
Quel est le prénom du Armstrong qui jouait de la trompette?
Louis.
Dans quel pays est né Mozart?
Autriche.
En 2008, quel film adapté d'une comédie musicale met en avant les ABBA?
Amamia.
Le vrai prénom du rappeur Orelsan, c'est Julien ou Aurélien?
Aurélien.
Le premier concours de l'Eurovision, c'était en 56 ou en 62?
En 62.
Qui commence sa chanson par « Au premier temps de la valse » ?
Je passe.
Si Claude François était vivant, il aurait plus ou moins de 90 ans?
Ah là 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 là, 6 ans.
6 bonnes réponses.
6 bonnes réponses pour Florence.
Eh bien, c'est le jeu.
Alors, Brad Pitt, il a tourné 7 ans au Tibet.
Et il n'avait plus le droit d'aller en Chine. Il était interdit de passage en Chine parce qu'il avait tourné 7 ans au Tibet. C'était la guerre entre la Chine et le Tibet.
Oui, vous connaissez bien Brad Pitt.
Interdit. J'ai vu deux fois, mais voilà, on est
amis. Il part chercher les moustiques
régulièrement.
Et vous me l'avez jamais dit.
Jamais.
Ensuite,
j'ai peur.
Les Fourberies de Scapin, c'est en 3 actes.
Oui. C'est Jacques Brel.
Le premier concours de l'Eurovision, c'était en 1956. Et c'est Jacques Brel.
Et il faut voter Slimane, il faut que la France gagne.
Au premier temps de la valse. Florence, donc pas de... sous, hein, je rajoute 100 euros dans le jackpot, désormais à 1 300 euros. Mais on vous offre une enceinte Bluetooth Mino X de la marque française Lexon, primée pour sa forme ergonomique. Vous pouvez écouter Europe 1 partout, y compris sous la douche ou au bord de la piscine.
Et elles sont canons, les enceintes, je les ai vues, elles sont incroyables.
Moi j'en ai même une chez moi, c'est une tuerie.
On vous embrasse Florence, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et peut-être à bientôt, si vous voulez nous envoyer une petite boîte de caviar, on dit pas non. Hein. Bonne fin d'après-midi à vous. Et puis nous accueillons Stéphane. Bonjour Stéphane.
Bonjour Stéphane.
Bonjour, ça va les copains?
Bonjour Stéphane. Salut Stéphane.
D'où appelez-vous Stéphane?
J'appelle de Marignane.
Ah, on adore cet accent Stéphane.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Eh bien, déjà, je suis heureux. C'est de la
C'est beau.
Il a l'air top, Stéphane.
Grave.
Je suis plombier chauffagiste.
Vous êtes au travail, là, dans votre voiture? Quand est-ce que vous nous écoutez?
Eh bien, écoutez, je vous écoute normalement à partir de 14h.
Eh bien, en allant chez les clients.
Dans votre... Non, pas du tout. Je fais dans la construction, je ne vais pas chez les clients. Parce qu'ils ne payent plus de café, j'ai arrêté.
Alors, vous êtes heureux parce que vous avez une femme de votre vie. Alors, pas de peau, elle s'appelle Maïté, mais je lis qu'elle ne sait
pourquoi
pas cuisiner.
Pourquoi
parce qu'elle s'appelle.
Tout de suite, alors comme ça, on balance les trucs.
Je lis qu'elle s'appelle Maïté,
mais
qu'elle ne sait pas cuisiner.
Ah oui,
voilà,
c'est tout.
Stéphane,
elle ne sait pas.
Stéphane, elle est basque alors, parce que Maïté, ça veut dire la bien-aimée en basque.
Non, elle n'est pas basque, elle est de Nantes.
Bah alors. Mais vous savez cuisiner, j'espère, parce que...
J'ai dû m'y mettre, hein, c'est bon, les steaks hachés, ça suffit, surtout cuit que d'un côté. C'est bon.
Elle va être contente.
Alors, si je vous parle de cuisine, c'est que tout à l'heure, on va recevoir Marie Drucker. On va voir si elle sait cuisiner. En tout cas, elle s'y intéresse et elle a mené une vraie enquête sur la bonne manière de s'alimenter avec des spécialistes.
Oui, je vous écoute.
Oui, alors, qu'est-ce que vous faites comme spécialité, Stéphane? Vous, des petits farcis?
Vous parlez en termes de cuisine?
Non, on attend un crap plus tard, le côté sexuel, Stéphane.
Il est coquin, ce Stéphane, j'ai l'impression.
Bah, Stéphane, un nom, ça veut dire coquin.
Il est même un petit peu mutin, également. ma mère m'a inculqué une jolie petite recette, ça s'appelle la viande dans le gâteau. Alors, c'est très bien, c'est un filet mignon, comme ça, on met un peu de moutarde dans une pâte brisée, peu de moutarde, des oignons un peu confits, comme ça, on met le filet mignon, on agrémente un peu des poivrons et autres petits agréments, on referme le truc, ça fait comme un gâteau, avec de la viande dedans.
Alors, c'est une tarte brisée ou une tarte feuilletée, une pâte feuilletée autour?
Brisée.
Mais la viande, elle est crue ou cuite au moment où vous la mettez dans la pâte?
Ça cuit dans la pâte. C'est comme un truc en croûte.
Un poisson en croûte de sel.
C'est tout à fait ça. C'est tellement
comme un bœuf Wellington, là. Oui, un peu, c'est ça l'idée, je pense.
Voilà, très bien. Bon, vous êtes prêts à jouer, Stéphane? Il y a un beau jackpot, 1 300 euros.
Ouais, mais je suis en grosse angoisse. En plus, je me suis coupé là, en descendant de l'échelle. Là, je perds énormément d'hémoglobine et j'ai peur que mon cerveau ne soit pas assez irrigué.
Ah non, alors attendez. Alors, allez vous soigner avant que l'on joue, si vous voulez.
Non, ça va.
Bon,
ça
va.
Ce qui m'inquiète, le truc, c'est que ça commence à sentir l'amande amère, hein, ce qui n'est pas bon signe. Mais bon, on verra.
Et on va s'évanouir à vous écouter.
Vous trouvez des recettes, ça dépend.
Faites un garrot, quand même.
Oui.
Bon, on devait jouer au qui ou quoi. On y va ou vous allez vous mettre un pansement?
Non, allez-y, c'était une petite boutade.
Ah bon. Alors, écoute. Voici le qui ou quoi.
Europe 1, le qui ou quoi.
Stéphane, vous allez entendre une série d'indices. À vous de deviner de qui ou de quoi on parle. Écoutez bien.
C'est fou d'écrire des phrases comme ça, il y a plus de 400 ans et elles sont toujours là.
Comme son homologue français, lui aussi, il était comédien.
On le surnommait le barde, mais rien à voir avec Astérix.
Je savais pas que beaucoup de bruit pour rien, c'est de lui.
Des couples que tout oppose et qui se forment, c'est universel.
Alors, il y a 400
ans. J'ai pas entendu la dernière. J'ai pas bien compris la dernière.
Des couples que tout oppose. Ouais. J'avoue, j'ai pas, je suis pas claire non plus.
Alors déjà, je vous propose de le réécouter. C'est difficile.
Ouais, hein, s'il vous plaît. Ouais. Ouais, non, mais attendez, là, vous êtes en train de me faire une mercuriale et ça, je n'apprécie guère. Hein. Allez-y.
C'est fou d'écrire des phrases comme ça, il y a plus de 400 ans, et elles sont toujours là.
Comme son homologue français, lui aussi, il était comédien.
On le surnommait le barde, mais rien à voir avec Astérix.
Je savais pas que beaucoup de bruit pour rien, c'est de lui.
Des couples que tout oppose et qui se forment, c'est universel.
Alors, il y a 400 ans, qui ça peut être ?
Il y a 460 ans, exactement. Il est né aujourd'hui, c'est son anniversaire aujourd'hui.
Ça peut être Shakespeare ?
Ah oui, peut-être c'est ça.
Bah déjà, alors, il avait une
ah oui, des couples que tout sépare, donc Roméo et Juliette.
Oui. Oui.
Et puis parmi les phrases, il a laissé des phrases de être ou ne pas être, par exemple.
C'est the question.
Il ressemblait à...
C'est du pain béni, mais merci les copains que j'aime beaucoup. Ah. Mais oui, effectivement, on peut s'orienter sur Shakespeare. Hein. Oui,
ça va. Donc on bloque
Shakespeare.
Ah, bah, il avait les cheveux mi-longs.
C'est ça que j'adore chez vous, Sophie. C'est ça que j'adore chez vous. Une petite phrase, il faut bloquer. C'est la première réponse. Je bloque direct, quoi. J'aime bien votre style.
Mon style, c'est-à-dire de bafouiller beaucoup. C'est quoi mon style?
Mais ma femme est pareille, elle confond les mots. Je l'appelle toujours Jean-Michel à peu près. C'est pareil.
Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est Jocelyne à peu près. En tout cas, c'est une bonne réponse.
Bravo,
il est né il y a 460 ans.
Merci les copains.
Ouais, ça fait une, hein, il en faut encore trois. Hein,
on va les avoir.
Il me faut absolument le jackpot. Je suis fan de royauté.
On va y aller, Stéphane, on va y aller.
Eh ouais, il faut que je m'achète deux couronnes dentaires et ça me motiverait, quoi.
Bon, allez. On l'appelait le barde d'Avon parce qu'il est né à Stratford, upon Avon. Voilà. Ouais. Alors attention, Stéphane. Il reste encore trois bonnes réponses à me donner pour pouvoir tenter ce jackpot à 1300 euros. Et voici une question actu. La nouvelle star, elle,
oui.
Lio.
Hein. Oui.
Alors, il va être question de la Joconde. Elle est dans l'actu, Mona Lisa, car rien ne va plus. On sait qu'un sondage reste un sondage, mais quand même, le tableau a été élu comme l'œuvre la plus décevante du monde.
Ah bon ?
Alors, ce n'est pas forcément le tableau qui est mis en cause, mais la salle où elle est exposée. Parfois, l'été, la pièce est étouffante, et certains jours de pointe, 25 000 personnes y défilent. Mmh. Alors, qu'est-ce qui est envisagé pour sauver la Joconde de son triste sort ? Est-ce qu'il s'agit d'installer une clim nouvelle génération qui rafraîchit les êtres vivants mais pas les objets ? Est-ce qu'il s'agit de creuser une salle sous la cour précarée du Louvre ? Ou est-ce qu'il s'agit de mettre plein de copies partout dans le musée sans dire laquelle est la vraie ?
Alors,
ça évitera les idiots qui balancent de la peinture sur les œuvres qui sont de toute façon heureusement protégées.
Ouais.
C'est pas faux.
Ouais.
Alors là, je suis mitigé parce que moi j'avais cru justement entendre que justement l'œuvre elle était tenue à une température constante.
Ça, c'est sûr.
Ouais, c'est vrai.
Ça, c'est toujours le cas. Hein.
Mais beaucoup d'œuvres.
Alors
beaucoup
après qu'on mette une clim, s'il y a 25 000 personnes par jour qui vont le voir, 25 000 personnes par jour, ça fait beaucoup. Donc si on met une clim, il y en a qui vont rester plus longtemps. Ça va faire chier tout le monde.
Ça rendrait le truc trop confortable, ouais. Quoi, c'est ça.
Surtout que les gens ne la regardent plus. On voit que des gens faire des selfies devant. Ouais. Et il y a, si vous allez au Louvre, un tableau en face
dos,
qui est
en
incroyable.
Fait.
Le plus beau tableau du Louvre, il est juste en face. C'est un Véronèse. Mm. C'est les Noces de Cana qui fait tout le mur et personne ne le voit.
C'est
dommage.
Mm. Bah, cela dit, maintenant que les gens sont de dos à la Joconde.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous pensez, pourquoi
Alors,
installer une clim nouvelle génération qui rafraîchit les êtres vivants, mais pas les objets, creuser une salle sous la cour précarée du Louvre, ou mettre plein de copies partout dans le musée sans dire laquelle est la vraie.
Non, ça, c'est pas possible.
Je suis mitigé. Je pourrais pencher sur la deuxième, quand même.
Ouais, moi aussi, je m'arrange. J'ai eu l'impression
alors,
de la deuxième.
Clément, il dit quoi?
Ça me paraît surprenant de faire ça, mais ce serait une bonne idée pour remettre en valeur aussi les... Parce que c'est un ancien château. Mmh. Et donc, d'aller voir justement
ce qui se passe en dessous.
Dessous qui est très peu exploité, mais qui se visite aussi.
Ouais.
Et Mélanie?
Oui, moi, j'opterais aussi pour la 2.
La 2,
parce que pour la dernière, c'est pas mieux.
On va se faire
Je suis.
un choix de groupe, alors.
Voilà, j'ai fait l'école du Louvre, normalement, je devrais savoir.
C'est vrai?
Oui.
Non, ouais, donc tu sais déjà qu'en dessous, il y a des catacombes et des choses incroyables.
C'est incroyable.
Il faut savoir que c'est sous le musée du Louvre qu'il y a tout le mobilier national. C'est-à-dire quand tu changes de mairie ou tu changes de président, tu peux aussi changer ton mobilier quand tu arrives.
C'est dans le musée de prendre celui du précédent.
Et il y a, c'est
dans extraordinaire. Le 13e, le mobilier national
non,
aussi.
Sous le musée du Louvre, il y a aussi des œuvres extraordinaires qui nous appartiennent, puisque ça appartient à l'État.
Bah, d'ailleurs, on va se servir régulièrement avec Caroline.
Bah, c'est là où on fait notre shopping.
On bloque alors, Stéphane ?
S'il vous plaît, Sophie, bloquez.
Ouais. Alors, dans une salle spécialement pour elle, au sous-sol, sous la cour précarée du Louvre, une salle qu'il faudrait creuser et créer, le budget a été annoncé, 500 millions d'euros,
quoi,
c'est rien du tout, alors que le ministre de l'économie cherche 25 milliards d'économies. Les arbitrages ne sont pas encore tranchés.
Pas
80% des visiteurs du Louvre y vont, bien
que
sûr,
pour la
entre autres, pour admirer la Joconde. Stéphane,
moi, je vais leur faire leur trou
bravo,
hein, pour 500 millions. Hein.
Deux bonnes réponses pour vous.
Bravo. Non, c'est pas vrai, mais si. C'est super, je vais
péter
ça, je vais acheter de la viande.
Attendez, on n'a pas fini,
on va jouer chemin, là,
avec les archives d'Europe 1.
Vous êtes bien sur Europe 1. Bien entendu, sur Europe 1. Vous êtes bien sur Europe 1.
Mais l'archive dont on va vous parler, vous étiez tout petit, hein, Stéphane. On va avoir le bonheur de retrouver Pierre Bonte. Ah. Il entre à Europe 1 en 1956. Et en 1959, il est à la tête de l'émission mythique « Bonjour, Monsieur le maire ».
Ouais.
Et là, nous sommes en 1985. Il a Brigitte Bardot au téléphone. Jusqu'à présent, c'était elle, le buste de Marianne en sculpture dans toutes les mairies. Mais il est question que une nouvelle actrice incarne Marianne. Écoutez.
Et quelle impression ça vous a fait d'être choisie pour incarner la République ?
Ah là, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. J'ai été très fière. J'ai trouvé ça formidable. Ça, c'est vraiment un grand honneur pour une femme.
Imaginons, alors, aujourd'hui, si l'on devait trouver un modèle pour Marianne dans les comédiennes actuelles, quel est le visage, quelle est celle qui vous paraîtrait le meilleur modèle ?
Alors que va-t-elle répondre, Brigitte Bardot, avec son franc-parler habituel ?
On a l'impression qu'il y va avec des pincettes, lui, un peu.
Est-ce déjà Brigitte Bardot, c'est flippant, ouais.
Est-ce qu'elle va dire qu'elle verrait bien un animal à sa place, un labrador ? Est-ce qu'elle va dire que son buste est très bien et qu'il n'a pas besoin d'être remplacé ? Ou est-ce qu'elle va dire Jean Marais pour la remplacer ?
Ah, c'est drôle. Ah.
C'est en quelle année ?
En 1985.
Ouais.
Moi, j'ai une
petite
idée.
Dans la poche, alors...
Moi, j'aime bien le côté Jean Marais.
Ouais, moi aussi, j'aime bien le côté Jean Marais. Mais est-ce qu'elle était taquine, comme ça ?
C'est pas son humour.
C'est pas son humour, c'est votre humour, Clément, vous voyez.
Pourtant, on n'a jamais pris mon buste pour faire Marianne.
C'est étonnant, d'ailleurs. Ouais.
Ça va venir, normalement.
Parce que ça serait un beau buste.
Est-ce qu'elle a beaucoup d'humour, Brigitte Bardot ? Elle a un vrai franc-parler, mais je suis pas sûre qu'elle ait énormément d'humour.
Elle peut tacler, quand même, non ?
Non, puis elle voulait garder son buste, je pense qu'elle a dit. Ce sera mon buste et personne d'autre.
Alors, il faut quand même que vous sachiez qu'il n'y a pas longtemps, sur Affaire conclue, j'ai acheté le buste de Marianne de Brigitte Bardot.
Non.
Et j'ai eu Pierre Bonte au téléphone parce qu'il voulait le racheter. Parce que c'était justement suite à cette émission qui tournait Bonjour Monsieur le Maire. Et c'était un monsieur qui travaillait avec lui à la télévision qu'il lui avait offert. Et il était dédicacé par Pierre Bonte. Et finalement, c'est un des acheteurs récurrents de notre émission qui l'a acheté pour aller embêter un peu Pierre Bonte. Donc, ouais. Et j'ai eu aussi Brigitte Bardot au téléphone. Elle a beaucoup d'humour, il faut le savoir.
Ouais. C'est quoi la 1 et la 2 déjà ?
C'est un labrador.
Elle a un labrador ou elle-même, quoi. Bon, ouais. À mon avis, c'est l'un des deux et peut-être elle-même.
Elle-même,
quand même.
Ouais.
Oh non, elle était passée mégalo. Je sais pas.
Non, mais c'est sous le ton de l'humour.
Alors, qu'est-ce que vous dites, Stéphane ?
Je le sens mal.
Non, mais ça, c'est pas elle, je pense pas.
C'est elle-même, elle voulait pas être détrônée. Je pense que c'est elle-même.
Je m'oriente là-dessus, puis le 2, ça me porte généralement chance. Donc, allez, moi je valide le 2. Et les copains que
nous, on valide aussi.
Ouais.
Alors écoutez la réponse.
Quelle est celle qui vous paraîtrait le meilleur modèle ?
Sauf que le mien, il est très bien.
Et vous n'avez pas envie d'être remplacé.
Pas tellement, puis je trouve qu'il y a des priorités plus importantes. L'image. La République doit être représentative d'un pays. Ça, c'est sûr. Alors, je pense que la prochaine, elle sera peut-être un peu toc.
Bon, Brigitte Bardot, je vous remercie beaucoup.
Il y a Marianne de 66-67, je vous salue.
Elle est géniale.
Au revoir, Marianne.
C'était pas Laetitia Casta qui avait été là.
Il y en a eu plusieurs. Hein,
ouais. On salue Pierre Bonte. Il a 91 ans aujourd'hui.
Ouais, il a une page d'enfer encore.
Alors, Brigitte restera comme la première Marianne version célébrité. Un choix du général de Gaulle. Suivront Michel Morgan, Mireille Mathieu, Catherine Deneuve, Laetitia Casta, mais aussi l'animatrice télé Evelyne Thomas.
Non. Oh, j'avais oublié celui-là.
Si, à l'époque de C'est mon choix, je m'en rappelle très bien.
Bientôt ce sera Sophie d'avant.
Mais comment Sophie, c'est pas vous
Franchement.
C'est trop tard.
Vous avez peut-être pas assez de seins, Sophie.
Elles sont très bien, mes seins.
Mais j'ai pas dit qu'ils étaient pas bien.
Moi, je suis étonnée qu'il n'y ait pas eu Sophie Marceau, surtout.
Ouais, c'est vrai, elle aurait pu, complètement.
Bon. Ça fait réagir personne. Si. Stéphane, vous aimeriez qui vous
Oui, Sophie Marceau, effectivement, je pense que c'est une erreur. Ah, mais
c'est, vrai. C'est vrai que Sophie Marceau, ce serait chouette. Hein.
Alors, Stéphane, voici la quatrième question, et c'est une question internationale. C'est bon, ça aussi, pour
Ça approche les vacances.
Stéphanie, il danse aussi dans sa voiture.
Une chanson étonnante, c'est le tube espagnol en version japonaise. Alors, pourquoi cette musique? Parce que nous allons évoquer le monde automobile. Pour éviter la publicité clandestine, voici quelques marques. Renault, Citroën, Opel, Mercedes. Là, il va être question de l'arrivée en Espagne d'un véhicule de marque Nissan. Ça va être un bide. Mais pourquoi? Est-ce parce qu'il y avait un petit drapeau espagnol, mais les bandes ont été inversées? Est-ce parce que le slogan, c'était « meilleur qu'un véhicule espagnol » et ça a vexé tout le monde? Ou est-ce que parce que c'était la Nissan Moco, et Moco signifie « crotte de nez »
Ça doit être drôle. Ça, non?
Alors, ça peut être la troisième.
Ça me parle, le Moco, moi. Je sais pas pourquoi.
Que dit Stéphane, d'abord?
Moi, je validerai la troisième, moi.
J'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette histoire de Moco.
Ça existe beaucoup. Il y a beaucoup de marques comme ça. Je peux citer une autre marque ou pas.
Oui.
Qui, à l'international, qui est Bledina, qui s'est jamais implantée en Russie. Parce qu'en russe, Bledina veut dire prostituée. Donc on n'a pas envie de donner des prostituées
à ses enfants. Avec des aliments pour des bébés en plus.
Il y a pas mal de marques comme ça. Donc ça arrive régulièrement où on cartonne dans un, comme des joueurs de foot qui s'appelaient Cocu ou Kaka. Qui vendaient très peu de maillots parce que.
C'était moins bien.
On n'a pas envie d'avoir
Kaka
Stéphane,
je pense que c'est chouette de bloquer ça.
Ouais, je bloque les Moco, je le sens bien.
Voilà, c'est important, c'est la quatrième.
Ah là, c'est horrible. Moi, j'ai rien dit.
Moi, j'ai pas la réponse, j'ai juste une intuition.
Je pense que c'est ça.
T'as vu comment
Vous êtes sûr que je bloque Moco.
On s'est dédouanés tous.
Et qui signifie effectivement crotte de nez en espagnol. Ouais. Et ça fait pas vraiment rêver.
Et alors
Donc, c'est la bonne réponse.
Oh là là, bravo. Génial.
Quatrième bonne réponse.
C'est la folie dans le studio.
Alors, vous dites qu'il y avait d'autres exemples. C'est vrai, la Fiat Uno n'a pas pris en Finlande parce que ça signifie ordure là-bas. Les Japonais en France ont également tenté de lancer une marque de lunettes. Elle s'appelait Hypercon.
Il y avait une voiture qui s'appelait Mito, parce que Mito, ça, à la base, il y avait une voiture qui s'appelait la Mito. Ils avaient fait une OP avec Bob Sinclair et c'était la Bob Sinclair Mito. Et je trouvais ça terrible de s'associer
à Mito.
Au mot mytho, en tout cas.
Comme quoi, ils sont vraiment mauvais au niveau de la com, les mecs.
Alors, ça dépend qui, mais d'un pays à l'autre, on ne choisit pas. Il faut penser international dès le début.
Ouais. Bravo,
le jackpot pour Stéphane. Il va falloir donner 10 bonnes réponses en moins d'une minute. Stéphane a l'air décontracté. Ouais. Là, c'est un exercice de rapidité.
Faut pas oublier. Donc, rapidité.
Si la réponse ne vient pas, on passe à la question suivante. Ouais. On est prêt, Stéphane?
Allez, on y va.
On est derrière vous, en tout cas.
1300 euros en jeu.
Bonne chance.
Attention.
Allez.
Top chrono. Vrai ou faux? L'actrice Anna Girardot est la petite fille d'Annie Girardot.
Faux.
Fleury Mérogis, c'est dans les Hauts-de-Seine ou dans l'Essonne?
Dans les Hauts-de-Seine.
Cool and the Gang, c'est de la funk ou du métal?
C'est la première.
Comment s'appelait la troupe de Michel Fugain? Non, c'est
je
pas
passe.
Le nom. Ize est une chanteuse ou une athlète?
J'ai pas entendu, je passe.
Ize, les artistes sur scène aux Enfoirés 2024 étaient plus ou moins de 50?
Plus.
À la télé, qui présente le village préféré des Français?
À la une.
Dans quelle île habite Casimir?
Dis-le aux enfants.
De quelle couleur est Titi?
Marron.
Cette année, Casimir le monstre gentil a 50 ans ou 60 ans?
60.
De quelle couleur était Casimir?
Au jaune.
De quoi peur l'aquaphobe? De quoi
bah peur? Allez, c'est bon, on arrête, c'est foutu, j'y arriverai pas.
Est-ce que vous êtes daltonien, Stéphane?
Ah là là, ma fille qui m'écoute à la maison, elle doit être deg, la pauvre ma fille. T'inquiète, je t'achèterai un œuf Kinder. Voilà.
Comment elle s'appelle, votre fille?
Elle s'appelle Nina.
Nina.
Bonjour, Nina. On l'embrasse.
Alors elle doit connaître la couleur de Casimir, le monstre gentil.
Oh bah non, elle est trop jeune. Non, elle était plutôt patte patrouille.
Bah oui. Mais Titi, il était jaune. Alors,
Titi jaune, par contre. Oui.
Trois bonnes réponses, cher Stéphane. Fleury Mérogis, c'est dans l'Essonne. Oui. Cool and the Gang, c'est de la funk.
Bah oui, la funk.
La troupe de Michel Fugain, c'est le Big Bazar. Ouais. Ise est une chanteuse. Sur scène, Les Enfoirés étaient moins de 50, 47 exactement. Ouais. Stéphane Bern présente le village préféré. Casimir habite l'île aux enfants. Titi est gros
jaune. Jaune. Titi, c'est jaune.
Le monstre gentil, il a 50 ou 60?
50 du coup.
Ouais.
Et sa couleur?
Orange.
Ah oui.
Et de quoi a peur l'aquaphobe?
De l'eau.
Voilà, trois bonnes réponses.
Mais j'ai l'impression d'avoir rien. Mais trois bonnes réponses.
Non, là, vous avez.
J'ai envie de vous dire que pour moi, l'histoire s'arrête enfin.
Mais vous allez avoir un super cadeau.
Non, mais il faut rappeler, il faut rejouer. On a envie de vous entendre.
Alors,
à nouveau.
On rajoute 100 euros dans le jackpot, désormais à 1400 euros. Et on vous offre une enceinte Bluetooth Minox de la marque française Lexon.
Mais U, peut-on trouver 4 fruits et légumes à prix coûtant chaque semaine?
Ici, dans les magasins U, il y a plein de fraises à prix coûtant. Et à seulement 2,69€ la barquette. Ah, j'ai couru pour pas rater ça.
Ouh. Retrouvez chaque semaine 4 fruits et légumes à prix coûtant. Du 25 au 27 avril dans vos magasins U, les fraises rondes à prix coûtant sont à seulement 2,69€ la barquette de 500 grammes, soit 5,38€ le kilo. U, commerçant autrement.
Catégorie 1, origine France par modalité et magasin participant sur magasin-u.com.
Découvrir votre jolie chanson.
Ah oui, on va l'écouter.
La complainte de...
Des qui pendent.
Voilà.
Mais ça va faire rire. Hein. Bon. Vous allez rire.
Allez, à bientôt Stéphane, n'hésitez pas à revenir vers
nous. Au revoir Stéphane.
Vous m'avez fait rêver. Au revoir les copains que j'aime beaucoup.
Je suis heureuse d'accueillir notre invitée qui est une femme aux multiples casquettes après avoir été journaliste pendant plus de 20 ans. Enfin, elle l'est toujours, elle l'a été notamment sur Europe 1. Elle consacre désormais sa vie à l'écriture, la réalisation et la production de documentaires et de fiction. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'Au bout de l'enquête, l'émission qu'elle présente sur France 2, mais de ses recettes. Bonjour Marie Drucker.
Bonjour.
Merci
Sophie.
D'être avec nous.
Bonjour les copains.
Bonjour. J'ai été surprise, moi, de vous découvrir cuisinière. Alors, est-ce que c'est une vraie cuisinière ou une journaliste quand même cuisinière?
Parce Alors,
que
je vous dis nous... tout de suite dans le livre, c'est un livre qui s'adresse aux femmes et aux hommes comme moi, c'est-à-dire qui adorent manger,
ouais. Mmh.
Qui prônent une alimentation saine, équilibrée, de saison, voilà, sans trop se priver. Et qui n'ont pas de plaisir particulier ni à cuisiner ni de talent particulier.
Oui, c'est ça. Voilà. C'est bon,
donc elle n'est pas vraiment cuisinière.
Voilà. Non, et d'ailleurs voilà, donc je prétends pas du tout. Je fais la cuisine presque tous les jours, d'abord par nécessité pour la famille, etc. Mais voilà. Et en plus à chaque fois je me dis c'est quand même pas possible. Tout ça est englouti en 3 minutes alors que j'ai passé 3 quarts d'heure. C'est pas juste.
Alors ça s'appelle Bien manger pour être en forme. C'est publié chez Michel Lafon. Il paraît que ce sont vos lectrices, vous aviez déjà publié un livre pour être en forme d'une manière générale, mm-hmm. Ce sont vos lectrices qui vous ont demandé des recettes ou de compléter, de donner des infos sur la manière de s'alimenter pour être en forme?
Oui, le précédent s'intitulait En forme, mm-hmm. Donc comme quoi je n'ai pas beaucoup d'imagination, Sophie. et c'était alimentation, santé, beauté, c'était une espèce de méthode globale, parce que je me disais, voilà, il n'y a pas de... Même si... C'est quoi maintenant 50 is the new je sais pas quoi non 70 is the new 50 ouais. 50 je sais plus quoi bon
ouais.
Je me suis dit quand même on se rend compte que pour être en forme il y a une espèce de méthode un peu globale, donc je m'entoure toujours de spécialistes, de médecins, de sportifs, là il y a une dermatologue aussi dans celui-ci,
un psychanalyste, un psychanalyste, une dermatologue,
ouais. Un ébéniste, il y a vraiment tout
absolument un menuisier, menuisier, un brocanteur.
Vous avez toujours fait attention à ce que vous mangez.
Mais non, justement, moi, le but, c'est d'essayer de faire le moins d'attention possible. Mmh. Donc, non, je pense que la méthode globale, c'est évidemment, alors là, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est une alimentation saine et équilibrée, c'est un bon sommeil et c'est une activité physique régulière. Mais on se rend compte que les trois, en fait, fonctionnent quand même ensemble. Et ce que, et puis nous, on a quand même une chose qui s'appelle les hormones, les hommes aussi, mais on n'est pas tout à fait égaux, malheureusement. Mmh. Et à partir de 40 ans, quand les hormones commencent à chuter, ce qui, bon, je rappelle aux auditeurs et aux auditrices un peu plus jeunes ce qui les attend, les cheveux commencent à blanchir, les ongles sont de moins bonne qualité, mais aussi notre système digestif, nos intestins deviennent moins performants.
C'est pour ça que papa en grossit.
Non mais voilà, alors même qu'on se dit c'est bizarre puisque je n'ai pas changé ma façon d'alimenter. Mais vous mettez le, voilà. Et donc en fait ce que j'essaye d'expliquer, c'est le deuxième ouvrage d'ailleurs, c'est à 40 ans on ne peut plus se nourrir comme à 30 et à 50, voilà, ça ne sert plus à rien de compter en calories, il faut faire attention aux combinaisons alimentaires, aux horaires des repas, mais en fait l'idée c'est qu'avec quelques conseils simples, on arrive à maintenir un équilibre et son équilibre. Ouais, c'est pas c'est un chouette, livre, hein. C'est pas du tout un livre de alors, nutrition, de régime.
Vous dites d'ailleurs que manger trop sain, c'est pas bon non plus. Hein.
C'est-à-dire qu'en fait, quand ça devient une obsession, ce qu'on appelle l'orthorexie, c'est-à-dire l'obsession de peser les aliments, de manger que des choses extrêmement saines. De toute façon, toute forme,
vous connaissez ça. Hein.
Évidemment, mais trop de sport aussi. Tout ce qui est fait de manière trop, c'est pas bien déjà.
Mais non, voilà.
Alors, on va accueillir Josiane. On va bien sûr parler de vos recettes. On va dire quand même que vous, vous mangez pas salé, que vous buvez pas d'alcool. Enfin, tout ça, c'est quand même très bien, hein. J'en connais d'autres qui mangent salé.
Ça va se faire tourner vers vous.
Et Josiane, on va accueillir Josiane qui nous appelle. D'où Josiane, bonjour.
Bonjour, j'appelle de Létra, d'un petit village au nord de Lyon, environ 40 km de Lyon, dans le Beaujolais.
Ah. Bonjour Josiane,
belle, ça, région. Belle région. Est-ce que vous faites très attention à ce que vous mangez, vous Josiane? Vous êtes une retraitée très active, d'après ce que je lis.
Je fais attention, j'essaye en tout cas.
Et, oui.
Et vous buvez de l'alcool dans le Beaujolais quand même ou pas?
Du vin.
Oui, mais du vin.
Voilà, essentiellement. Oh, oui, un petit peu, bien
mais
sûr.
Mais Josiane, vous savez que le vin, c'est de l'alcool.
Ouais, elle le découvre. Donc
oui,
c'est pour ça qu'on
mais on dit
le permis,
que
Josiane.
Le vin rouge a de quelques qualités.
Oui,
mais tout
pense,
à partir
j'espère.
Du moment où c'est avec modération.
Voilà, c'est ça.
Alors, on va commencer à jouer, Josiane, dans l'univers de Marie Drucker, notre invitée, et je vous donne le chiffre 10. À quoi cela correspond-il, à votre avis? Est-ce que ça correspond au nombre de chaînes différentes sur lesquelles Marie a travaillé? Est-ce que ça correspond au nombre de documentaires que sa boîte No School Productions a produit? Ou est-ce que ça correspond au nombre de broches qu'elle a à la jambe gauche?
Oh là là! Oh là 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 là, c'est pas facile.
Donnez une idée, mais vous inquiétez pas, elle va vous aider, Marie. Hein.
Alors moi, je suis en train de compter les chaînes, parce que j'ai commencé à la radio, je faisais une émission pour Nagui, où je prenais les voix des personnes qui font les JT, et je les remixais pour faire des trucs un peu drôles. Donc j'ai écouté des heures et des heures de Marie Drucker, je crois que c'était sur France 3 à l'époque.
Je suis désolée.
Non, mais c'était ça, et je mélangeais les mots pour faire un truc un peu sympa. Sur Europe 1, justement, il y a quelques années.
Et tu imitais?
Non, j'imitais pas, je prenais des mots et je mélangeais. C'était un montage, on réécoutait les infos de la veille. Exactement, c'était très sympa. Ah ben je dois en avoir en. Je pense pas que ce soit les chaînes, je pense que c'est le nombre de documentaires.
Et votre jambe va bien, Marie, sinon? J'ai le droit d'orienter un peu la réponse.
Ah, oui,
bien sûr. Ma jambe va très bien.
Ah,
voilà. Donc, c'est pas les broches. Hein.
Donc, il penche pour le nombre de documentaires.
Oui, j'irai aussi, là-dessus, vers cette réponse.
Bon. Moi aussi, j'irai vers cette réponse.
Et c'est une bonne réponse. Ah, ouais. C'est la première bonne réponse. Bravo à vous. Pourquoi ce choix, Marie? On vous regrette. Moi, j'aimais beaucoup que lorsque vous présentiez des journaux ou lorsque... Ah ouais,
parce que vous êtes vraiment très belle, quoi. Faut revenir.
Ouais, en dehors de ça, vous êtes surtout très talentueuse.
Oui, mais moi, j'aime bien... c'est
alors,
bien quand
pourquoi
même.
Ce choix? Parce que là, on sent que
je voulais
vous
vraiment
vous
changer de métier.
Mais pourquoi? Voilà. Parce que vous avez toujours souhaité écrire des fictions, en produire.
Mais vous savez, c'est comme quand vous dites, c'est comme s'il m'avait fallu plus de 20 ans en fait pour arriver là. Et les dernières années, je me disais je réalisais des documentaires. Je me disais j'ai envie d'aller vers la fiction. J'ai envie d'écrire. Et puis bon, vous le savez bien tous ici, quand on est dans le tourbillon de l'information. c'est même pas une question de temps, c'est que vous n'avez pas l'espace intellectuel, affectif, psychologique disponible pour faire autre chose. Vous êtes obsédé par l'information, vous avez l'impression que vous allez juste vous laver les mains et que vous avez raté votre vie parce qu'il y a une dépêche qui est tombée entre temps et donc vous avez l'impression d'être complètement perdu, qu'il faut... c'était merveilleux, j'ai appris beaucoup, j'ai
mais
rencontré des gens extraordinaires.
Mais vous continuez à vous nourrir d'infos ?
Pas du tout.
Voilà,
du
c'est tout, ça, vous n'en avez pas de besoin. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans.
Alors, non, moi je pense que c'est peut-être le contraire, c'est que je pense que j'avais envie vraiment aussi de changer de rythme, et c'est ce qui me permet... non, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, je ne m'informe pas du tout de la même façon.
Vous vous lavez les mains beaucoup plus longuement, du coup.
Ah, mais, et beaucoup plus tranquillement, ouais, sereinement.
Bien, bon, on va continuer de parler de tout ça avec Marie Drucker, qui reste avec nous jusqu'à 18h, et de son livre et de ses recettes, Bien manger pour être en forme, aux éditions Michel Lafon. Alors, quels sont vos trucs à vous? D'abord, très important, vous cuisinez avec des légumes de saison.
Oui, parce qu'en plus, la nature étant bien faite, elle nous prodigue ce dont on a besoin au moment où on en a besoin, pour renforcer notre système immunitaire, etc.
Par exemple, à l'automne, on mange des
champignons.
Noix ou des...
Exactement,
voilà, voilà, parce qu'on a besoin parce de renforcer son organisme en vitamine E.
Exactement, c'est le moment, l'automne, l'hiver, c'est le moment où on a besoin de renforcer son système immunitaire pour lutter contre ce qu'on appelle les maladies de l'hiver, de la sphère ORL. Michel Simès sort de ce corps.
D'ailleurs, le livre est divisé en quatre saisons.
Les quatre saisons, voilà. Et puis, je précise que ce sont des recettes faisables. Moi, j'ai 200 livres de cuisine dans ma cuisine. C'est bizarre, ça ne ressemble jamais à la photo quand je le fais. Et quelque chose me dit que ça n'a pas tout à fait le même goût non plus. Ce sont les recettes ou les miennes ou celles de mes amis.
Pas toujours facile, hein. Vous dites pareil que vous êtes la reine de la blanquette de veau. C'est pas si facile.
Et là, si, en fait, c'est facile. En fait, c'est,
avec
si je le fais,
cette recette-là.
Oui, oui, si en fait je le fais, c'est facile.
C'est une recette un peu simplifiée, non? Parce que c'est long, je crois, la blanquette de veau.
Ah, mais long et facile, c'est pas la, et difficile, c'est pas la même chose.
C'est vrai,
non, mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est que vous avez dit que dedans, c'est pas. Parce que moi, quand je lis livre de recettes pour être en forme, on pense que tu vas manger un petit pois et c'est fini. Là, en plus, on va bien manger des choses qui sont nourrissantes et agréables au goût. Parce que souvent, quand on pense que c'est faire un régime ou, bah, on se dit, t'as vraiment pas envie de le manger, que là, en plus, on a envie de toutes les manger.
J'espère. Alors après, moi, je fais très attention aussi par rapport à votre question, Sophie, à ce que je dis, parce que quand après on écoute un petit, voilà, si des auditeurs et des auditrices nous écoutent en cours de route, moi je ne prétends pas, parce que j'ai vu des messages qui disent « Ah, mais je ne savais pas que vous aviez une formation de nutritionniste. » Non, justement, je suis une femme comme les autres, qui cuisine le soir, qui fait ses courses, qui nourrit la famille, et donc je voulais des recettes simples qui font du bien, si possible, à l'environnement et à notre propre corps. Et ce sont des conseils qui, s'ils fonctionnent sur moi, je précise, peut-être qu'ils ne fonctionnent pas sur tout le monde. Il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai lu votre truc, mais moi j'ai essayé, ça ne fonctionne pas ». Attention, ce qui fonctionne pour moi fonctionne pour plein d'autres gens, mais pas pour tout le monde. Donc j'ai vraiment, je dis bien que j'aborde cette question avec beaucoup, beaucoup de modestie.
Oui, alors vous parlez quand même de ceux qui font des allergies au gluten, par exemple. Alors vous proposez un gâteau au chocolat, par exemple, sans farine, mais avec avec de la poudre d'amande.
Qui remplace aussi la farine, le sucre. Alors voilà, parfois, vous savez, on a beau faire des allers-retours à la correction, il y a une petite coquille sur cette recette. Vous faites bien de m'en parler,
Sophie. Le gâteau aux pommes ?
Non, le gâteau au chocolat. Il n'y a pas la quantité de chocolat dans la recette. Ça sera indiqué dans la prochaine réimpression. C'est 200 grammes, c'est une tablette comme dans la plupart des gâteaux au chocolat. Voilà, c'est 200 grammes.
En tout cas,
chocolat.
Les photos sont magnifiques. Je ne suis pas sûre que vous avez cuisiné en même temps que le jour où vous avez pris les photos.
Mais vous savez que j'ai découvert un métier qui est celui de photographe culinaire. Les photos sont d'Aurore Nguyen. Ouais. Et en fait, donc, cette femme, elle est photographe culinaire. Elle fait des photos pour les plats, les livres de cuisine, des restaurants, des bistrots. Et c'est elle qui cuisine. Donc je suis allée chez elle, elle cuisine, on a fait les photos, on choisit la vaisselle, etc. Mais c'est elle qui a fait les recettes.
C'est fou.
Alors par exemple, il y a un crumble pomme-abricot sans farine.
Oui, sans farine. Dans les quelques trucs, moi je trouve qui fonctionnent, et je dis encore une fois, attention avec beaucoup de modestie, pour moi ça fonctionne, c'est de respecter les heures de digestion. Ça veut pas dire, il faut savoir que quand on met quelque chose dans sa bouche, tout de suite la digestion commence. Donc si vous déjeunez à 13h et que vous grignotez à 15h, vous déclenchez une deuxième digestion. Moi, ça ne me réussit pas. Si certains ont besoin, ce qu'ils appellent une petite collation dans l'après-midi et que leur équilibre est très bien comme ça, c'est formidable.
Vous mangez pas d'ail ?
Alors ça, je suis allergique.
Vous ne buvez pas en mangeant.
Non, ça fait partie des choses que j'ai arrêtées il y a très très longtemps. Je ne bois pas en mangeant parce qu'en fait, c'est comme si vous buvez de l'eau. Tout ce que vous mettez dans votre bouche, y compris les aliments crus, si vous mangez un tartare de bœuf ou un tartare de poisson, tout passe automatiquement à la température du corps, 37 degrés. Pas l'eau. Même si elle est à température ambiante. Donc elle va tout de suite éteindre votre digestion. Donc ça envoie le signal que « Ah, je commence à digérer, non j'arrête. Ah, je commence à digérer, non j'arrête. » Pour schématiser. Donc, quoi, Sophie? Ballonnement, envie de dormir, stockage. Voilà. Et donc, c'est pas très, très agréable. Et donc, ça fatigue le système digestif et les intestins. Et on n'a pas envie parce qu'on a envie d'être en forme toute la journée. Voilà.
Bon, ça, c'est des petits conseils.
Ça a l'air de vous contrarier.
Le sel.
Voilà,
moi, je suis admirative parce que.
C'est tout ce qu'on fait pas, Sophie.
Sophie, elle est plus en forme que tout le monde réuni.
Oui,
donc,
mais
elle,
vous savez qu'elle mange.
Elle mange, Sophie. Voilà, écoutez.
Ah non, mais alors, moi, ça épate aussi toujours mais autour de moi. D'ailleurs, il y a une phrase qui revient chez mes amis qui me disent comment on peut autant manger et aussi peu boire. Non, et aussi peu boire.
Ah oui, que Sophie, elle fait les deux.
Ah oui, je fais les deux. On dit souvent l'inverse, moi.
Mais la raison, parce que ça lui réussit.
Oui, mais bon, je... Non, ce que je retiens quand même, vraiment, c'est que vous avez arrêté le sel. Moi, j'ai tendance à tout trop saler. J'aime pas trop le sucre, mais le sel, j'aime bien.
Le sel, j'ai vraiment le sel ajouté. Parce que du sel, il y en a partout. Il y en a dans les fromages, naturellement. Il y en a dans la charcuterie, si on mange de la viande, il y en a dans beaucoup, beaucoup d'aliments déjà. Donc moi, je n'ajoute pas de sel.
Mais enfin, pas de salière à la maison
J'en ai pas. Moi, je mets pour les gens qui viennent. Oui.
Moi, je mets du gnoc mam partout.
C'est très salé.
Oui, mais je me dis que c'est plus sain que du vrai sel.
Je serais curieuse de savoir combien il y a de sel dans une bouteille de gnoc mam.
Il y en a quand même pas mal dans les sauces soja. En fait, c'est pour ces sauces-là.
Si Caroline le fait, c'est que c'est pas terrible.
Bon, les amis, on va jouer avec Josiane qui est là, Josiane qui nous écoute, qui va nous raconter tout à l'heure ce qu'elle fait de sa retraite. Mais d'abord, Josiane, on va jouer au bluff Europe 1.
Tu bluffes, Martini.
Europe 1.
Tu bluffes.
Le bluff.
Pas sûr.
Alors, c'est simple, Josiane, je vais poser une question. Chaque copain va proposer une réponse en essayant d'être le plus convaincant possible. Une seule affirmation est bonne. À vous de la retrouver et Marie pourra vous aider puisqu'on parlait à l'instant on parlait d'ail, de ses recettes, surtout pas d'ail car Marie, vous êtes allergique. En parlant d'allergie, est-ce que vous pourriez me dire laquelle de ces célébrités possède aussi une allergie peu commune ? Clément.
Ah ben on va commencer avec Pierre Ninet, qui est un acteur qu'on adore, qui est allergique, c'est assez rare, aux plumes d'oiseaux. Ouais. Et il l'a découvert sur le tournage de Five, qui est un film qu'il a fait au début de sa carrière, où ses petits copains ont voulu lui faire une blague. C'est François Civil qui lui avait mis des plumes d'oiseaux pour faire un faux déguisement. Et ils ne se sont pas rendus compte, il a gonflé. Et le tournage a été arrêté pendant 15 jours à cause de ça.
Et il a explosé à la fin, non?
Non, ça c'est faux.
Non, c'est pour expliquer que c'est un mythos qu'il nous raconte, évidemment. Moi, je voulais vous parler, oui, bien sûr, de l'allergie de Luciano Pavarotti, qui était allergique au spray antitranspirant et au désodorisant. Tout ça parce qu'il était en fait allergique à une substance qui s'appelle le limonène. C'est une substance qui est sécrétée par les plantes ou par certains arbres. Et c'est une substance qui donne une bonne odeur, un peu citronnée, une odeur de frais. Donc c'est pour ça qu'on la retrouve.
Ouais, le côté j'invente des mots.
Dans ce type, dans ce type de cosmétique. Et donc voilà, c'était l'allergie de monsieur.
Le limonène.
Pas la limonène. Des huiles essentielles.
Non, rien à voir. Sur scène quand même avec des opéras.
Bon, il trouvait des systèmes d'éponge.
Vous sont perdus. Merci Mélanie.
Mes copinous, vous dites n'importe quoi. Faut pas les écouter. C'est Carole Bouquet avec qui j'ai dîné et que je connais très bien, qui est allergique aux crustacés. Ça m'avait d'ailleurs étonnée parce que, et du coup, je me suis renseignée. Contrairement aux autres allergies alimentaires, l'allergie aux crustacés et aux mollusques a tendance à se développer à l'âge adulte. Généralement, on a une allergie quand on est bébé. Non, là, les crustacés, c'est plutôt quand tu commences à avoir l'âge adulte.
On donne rarement de crustacés aux bébés en même temps.
Non, bah, c'est une crevette. Moi, ma fille, elle a donné les crevettes. Dans lequel on n'a pas le droit,
attention. Ouais. Hein,
Il n'y a que 1,6% des Français qui sont allergiques aux crustacés, donc c'est pas beaucoup. Et donc, c'est Carole Bouquet qui est allergique aux crustacés. Croyez-moi, chère Josiane.
Alors. Oui, écoutez, j'aurais tendance à penser que c'est la vraie allergie, mais bon.
Qu'est-ce que vous pensez, Marie? C'est pas facile.
Comment ça se traduit pour vous, l'allergie à l'ail?
Oh, je ne veux pas savoir. Vous non plus, Sophie. Non,
vous n'aimez pas ça ou vraiment vous êtes allergique?
Un peu les deux, il y a un dégoût, quoi, quand même. Mais non, ça me fait frisson, maux de tête.
Une vraie intolérance, quoi.
Alors que l'ail est un très bon aliment.
Ah, mais on découvre que dans la nature, tout ce qui pousse sur nos territoires français, c'est formidable. Il y a des choses merveilleuses pour notre santé dedans. J'aurais tendance à dire que c'est Caroline qui a raison, mais je n'en sais rien parce que je ne connais pas.
Non, parce que Marie, vous savez que moi, je ne mange jamais.
Oui. Ah, c'est pour ça.
C'est pour ça, Marie.
Quel bon argument.
Josiane, alors.
Mais je pense que c'est ça.
Eh bien, d'accord. Donc, je bloque votre réponse et vous avez raison.
Bravo.
Elle a collé la catastrophe. catastrophe sur le plateau de C'est à vous. On lui a servi de la langoustine. Heureusement, elle a décelé la présence de langoustine. Oui, l'ail, ça favorise l'intelligence, il paraît.
Ah bon ?
Ça, oui, je suis super intelligente.
Je ne sais pas comment je dois le prendre, du coup.
Je n'ai pas la source de cette étude, mais peut-être.
Par quoi vous remplacez le sel ?
Par des herbes, bouquets garnis, des épices. Ah, il y a un truc formidable. Parce que je sais, Sophie, que vous ne mangez pas trop de sucre, moi non plus. Ouais. Pour les gens qui ont du mal, alors encore une fois, vous avez vu les pincettes que je prends, attention, parce que quand on aime vraiment, vraiment le sucre, je crois que c'est très difficile de s'en défaire. Mais quand on aime ça très modérément et qu'on peut s'en passer, la cannelle, c'est un leurre pour le cerveau et pour le palais. Ah oui. Quand vous mangez de la cannelle, qui est une épice, qui n'a rien à voir avec le sucre, qui n'est pas sucré du tout, le cerveau et le palais reconnaissent le goût du sucre, l'impression que vous leur donnez du sucre.
Donc, c'est pas mal.
Donc on peut en mettre dans les yaourts, dans les compotes, dans les trucs pour remplacer le sucre.
Et les herbes, vous aimez beaucoup les herbes ?
Oui, alors sauf, c'est toujours pareil, ma grand-mère que j'ai toujours, qui a 99 ans, qui nous écoute peut-être, qui cuisine très 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 bien, qui cuisinait très bien, me disait toujours, oui, les gens qui mettent plein d'épices et plein d'ail et plein de trucs,
elle est de quelle région ?
Elle est normande, et elle me disait toujours, les gens qui mettent plein de trucs comme ça, c'est des cache-misères, c'est qu'en fait, ils savent pas faire la cuisine, et ils mettent plein de goût en plus pour tromper le palais des... Mais il faut pas qu'il y en ait trop, c'est toujours une espèce de, quand même, d'équilibre.
Ouais. C'est elle qui vous a appris la blanquette ?
Alors, la blanquette, figurez-vous que je l'ai apprise toute seule. En fait, parfois, je fais des variantes de recettes quand elles me semblent trop compliquées, justement. Par exemple, et je ne mets pas de béchamel, je mets jamais de farine dans les recettes parce que j'aime pas ça, ça me rappelle la cantine. Donc, je fais des endives au jambon avec de la crème,
avec
du fromage.
Voilà, de la blanquette à la cannelle.
Mais je mets jamais de farine, voilà, dans les plats. Voilà.
Allez, Momystère, c'est le jeu que nous allons proposer à Josiane. Alors, ce joli petit bruit, cher Marie, masque le mot que Josiane va devoir deviner. Et c'est un mot dans votre univers. Je vais vous donner quelques citations, Josiane, à vous de deviner le mot qui est remplacé par le pouet-pouet. Voici une citation du célèbre Daniel de Roulet.
Okay, ah, bah oui, tout le monde le connaît, Sophie.
Le bien roulé.
Amateur de cannelle.
Moi, ouais. Alors, science sans n'est que ruine de l'âme. Science sans n'est que ruine de l'âme.
Réflexion.
Une proposition. Science sans réflexion.
Science,
non, n'est que ruine de l'âme. Josiane, vous avez une proposition ?
Non.
Je peux l'aider, je peux aider ou pas ?
Oui, bien sûr, il faut aider.
Non ?
Oui.
Alors, ça commence par un C. Cannelle. Non, c'est ça. C'est pas ça le mot
non,
qu'il faut trouver.
Non, pas du tout.
Ah bon ?
Mais ça commence pas par un
C. Dites le mot auquel vous pensez.
Moi, je pensais que c'était science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
Ah, c'est joli en tout cas.
Et conscience a un lien avec vous ?
Oui.
Bah, quand même.
Non, parce que
pourquoi pas ? Mais
ça existe cette
citation. Cette citation, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Celle-là, elle existe.
Oui.
C'est pas ça. Joli en tout cas.
Apparemment, il y en a une autre. Alors.
Moi, je préfère la vôtre. Je me fais tatouer celle de Marie, moi.
Bon, autre citation de Stephen King. Là. C'est la part de vérité qu'il existe dans chaque mensonge.
C'est le même mot qu'il faut chercher.
Ouais.
Hein.
Oui,
ça j'ai compris.
Là, c'est la part de vérité qu'il existe dans chaque mensonge. C'est un lien avec vous, c'est un lien avec votre actualité.
La cuisine ?
La cuisine, c'est la part de vérité qu'il existe dans chaque mensonge.
Je savais que c'était pas ça.
Non.
Bah, Marie, ah bah la folie par amour à Marie.
Ben, c'est une certaine folie.
La folie, c'est la part de... Mais qu'est-ce qu'il fait, Marie, en ce moment ?
La création, l'écriture.
La création, science sans création n'est que ruine de l'âme. La création, c'est la part... On s'approche, c'est pas... Ah, c'est pas...
La créativité.
Là. Non, c'est pas C, parce que tout à l'heure, notre mari a dit C, c'était pas ça. Oui, une troisième.
Ouais, mais la troisième,
elle est facile. Avec le dernier, on trouve tout de suite, normalement.
On va trouver avec la deuxième, la création, la créativité. Bon, alors, je vous donne la
troisième. Josiane, toujours pas de proposition ?
Non, et ça commence par un C.
Non, pas du tout.
Mais j'aimerais quand même, en régie, si c'est possible, que quelqu'un google « science sans conscience n'est que ruine de l'âme » et me dise que ça n'existe pas, parce que je suis sûre que ça existe.
C'est tout à fait exact.
La fiction, non ? La fiction, non ?
Allez-y.
Science sans fiction n'est que ruine de l'âme. La fiction, c'est la part de vérité qu'il existe dans chaque mensonge. Et la troisième est de Mark Twain. La réalité dépasse l'âme.
Ah,
bravo,
Josiane.
bravo, bravo Josiane.
La réalité dépasse la cuisine, ouais. Moi j'étais donc.
Et bravo, et pourquoi la fiction? Bah, ça et fait oui, maintenant 6 ans que Marie a mis le journalisme de côté.
Bravo Josiane.
Vous avez coécrit avec Stéphane Brisé le film Hors Saison qui est sorti.
Qui est toujours en salle. Allez-y, oui. Josiane.
qui est sorti alors, avec Guillaume Canet.
Oui, et Albar Horvacker qui est une très grande star en Italie, qui est une actrice italienne d'origine allemande et francophone, et qui est très très brillante.
Le pitch
un homme et une femme qui se sont aimés il y a 15 ans, qui se sont quittés, perdus de vue, et qui se retrouvent par hasard, 15 ans après, chacun a fait sa vie, dans une station balnéaire hors saison.
Voilà. Et ils retombent amoureux.
Caroline, je vais pas tout vous dire. Non, mais en tout cas, c'est un film qui nous permet, parce que c'est un film assez long, on trouvait avec Stéphane que tout va trop vite autour de nous et qu'on avait cette chance d'avoir la liberté de prendre le temps long, qui est le vrai temps, en réalité, de nos évolutions individuelles et personnelles. Et ça permet de réfléchir à ce qu'on a été, les choix qu'on a faits, et le temps, ce que vous disiez tout à l'heure, Caroline, le temps qui nous reste. Oui. Voilà, comment l'employer intelligemment.
Une bonne association, c'est un grand réalisateur, Stéphane Brisé.
Oui,
Vincent Lindon.
Ouais, c'est un grand cinéaste. Bah oui, là après il en a fait plus que trois, mais les trois derniers avec Vincent Lindon, là, ils ont décidé ensemble, hein, d'ailleurs, que leur route allait momentanément se séparer. Et finalement, je pense que en fait, j'ai compris ça, c'est que l'acteur qui incarne un rôle. Eh ben, c'est le bon acteur pour ce rôle, en fait. Voilà. Donc, c'était à ce moment-là, forcément, Guillaume Canet. Donc, on a travaillé pour Guillaume, avec Guillaume. Et finalement, c'est lui qui porte merveilleusement ce personnage.
Allez, on va faire jouer Josiane avec une question musique, toujours dans l'univers de Marie. Alors, c'est un générique que vous avez pratiqué, cher Marie, puisque vous avez présenté les Victoires de la Musique de 2007 à 2011. Une cérémonie connue pour ne pas être spécialement courte.
J'ai présenté Victoires de la Musique classique.
Ouais, oui, ça ne va pas être facile à présenter, puisque ce ne sont pas les salles les plus chaleureuses, en général, dans ce genre de...
Oui, sauf que ce sont des gens qui sont vraiment mélomanes, passionnés par la musique classique. C'est toujours dans des lieux, on changeait de lieu chaque année, c'est toujours dans des lieux magnifiques. Donc, c'est quand même, sont quand même des gens qui sont très, très heureux que la musique classique soit à l'honneur sur le service public, en prime time. Donc c'est une salle qui est quand même assez agréable.
Alors, en parlant de musique et de longueur, est-ce que vous pourriez, Josiane, me dire quelle est la durée de la plus longue pièce de musique de tous les temps? Est-ce que c'est 639 minutes? Est-ce que c'est 639 heures? Ou est-ce que c'est 639 ans?
Oh là là!
Quand même pas, n'exagérons pas.
Alors moi j'ai un doute, pas sur la durée, mais sur la pièce. J'ai pas le droit de dire ce que j'ai en tête.
Si, vous avez tous les droits, justement.
La pièce, elle peut la donner ou pas? Non,
on va voir.
Je suis pas sûre. C'est la tétralogie de Wagner ou pas?
Non, pas du tout. C'est une pièce de John Cage qui s'appelle As Slow As Possible.
Elle était tellement longue que personne s'en souvient.
Non, mais c'est pas de la musique classique.
Non, voilà. c'est complètement underground.
639 heures, minutes. Non, minutes, en gros, c'est ce que j'allais dire, il n'y a plus de limite, en fait.
Non, exactement. Donc, 639 minutes, 639 heures ou 639 ans.
C'est trop, de toute façon.
C'est de dire 639 heures, parce que 639 ans, ça me paraît beaucoup.
Ouais. Quoique, si c'est une performance...
Minutes, c'est pas un record, je serais tentée de dire 639 heures.
Attendez, ça fait combien, 639 minutes?
Ça fait, ça fait 660. Bah, ça fait déjà. Non, mais on peut aider ou pas du tout?
Oui, bien sûr.
Ah oui, je veux bien.
Moi, il me semble qu'il y a. Donc, l'idée, c'est presque artistique, c'est de battre un record.
Ouais, et
qui dure actuellement depuis déjà quelques années pour longtemps et qui ne s'arrête jamais.
C'est ça.
Et je crois que c'est une pièce qui a été créée déjà il y a très longtemps et qui va continuer d'exister.
Ça fait 639.
Je sais pas, mais moi, je peux dire un truc à Josiane?
Oui,
je sais pas. Alors, est-ce que justement, le piège n'est pas là? Est-ce que c'est pas 639 ans?
Mais oui, dans ces cas-là.
Je pense que c'est ça.
Lançons-nous, Josiane.
Je vous suis, alors je dirais 639 ans.
J'espère que je ne fais pas de bêtises.
C'est une réponse importante, puisque c'est la quatrième bonne réponse, et c'est une bonne réponse.
C'est
une chanson qui a commencé à être jouée en 2000 ans à Halberstadt, qui est prévue de se terminer dans la plus grande des lenteurs en l'an de grâce 2640.
Ça a l'air
écoutez, c'est pour vous donner une idée de la lenteur du morceau.
Ça, c'est la musique en ce moment.
Le dernier changement de note a eu lieu le 5 février 2022.
Vous êtes contente de le savoir, Josiane.
Et le prochain sera le 6 août 2026.
Oh mon Dieu. C'est-à-dire...
Bon, vous voyez, on apprend de drôles de trucs sur Europe 1.
C'est inaudible.
Bon, merci Marie d'être venue nous voir.
Pour jouer sur Europe 1, envoyez Sophie par SMS au 739-21. 3 fois 75 centimes plus coût du SMS.
Vous retrouverez Sophie Davant aujourd'hui avec en invité le comédien Tom Villa pour la série Mademoiselle Holmes sur TF1 en partenariat avec Europa. Bientôt 5h et c'est déjà la fin de nos programmes de nuit. Dans un instant, Europe 1 bonjour avec Alexandre Lemaire et Omblin Roche. On va se quitter en chanson, évidemment avec un artiste aujourd'hui qui jongle entre sa carrière d'acteur et sa musique. Il a baigné dans la double culture franco-canadienne. Son troisième album porte son nom, c'est Alyosha Schneider. Ensemble, bon réveil et bon début de journée à l'écoute d'Europe 1.
La mémoire est courte, l'été est cruel. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Notre histoire est longue, mais la nuit est nouvelle. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement.
Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue sur Europe 1, on est très heureux de vous retrouver ce jeudi matin. Europe 1, bonjour, 5h-7h, on est avec Omblin Roche, bien sûr, bonjour Omblin.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
Jeudi 25 avril, dans l'actualité ce matin, a-t-on empêché la préparation d'un attentat pendant les Jeux Olympiques? Un adolescent de 16 ans a été interpellé, il avait annoncé sur les réseaux sociaux son intention de fabriquer une ceinture explosive pour mourir en martyr, c'est ce qu'il a écrit. Le suspect est déjà connu, il est déjà fiché S, il est entendu par la DGSI, on va y revenir dans nos journaux. On va s'intéresser aussi à ce nuage noir qui plane sur l'industrie pharmaceutique française. Biogarant, l'un de nos fleurons, un géant des médicaments génériques, pourrait bientôt être vendu à un groupe indien. Alors est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Les Républicains appellent Emmanuel Macron à empêcher cette vente. Ils ont écrit au chef de l'État, mauvais signal, effectivement. effectivement quand le président s'engage à relocaliser la production de médicaments. Le député LR Yannick Neuder viendra nous en parler à 7h20 sur Europe 1. Et puis attention à la dengue, le virus circule beaucoup plus vite cette année que l'année dernière, 13 fois plus de cas en France métropolitaine. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter alors qu'approchent les Jeux Olympiques? Comment sait-on d'ailleurs qu'on a la dengue? Est-ce que c'est contagieux? Que faire exactement si on attrape le virus? Eh bien, on va poser toutes ces questions au grand épidémiologiste Antoine Flahaut. Il sera avec nous à 6h20 sur Europe 1. Après le journal Omblin à 5h20, les initiatives en France.
Oui, l'application Telmi, ce matin, une application pour raconter des histoires aux enfants, des histoires uniques et illustrées, générées en quelques minutes grâce à une intelligence artificielle. Donc, l'enfant peut créer sa propre histoire, imaginer le héros de ses rêves. On en parle dans 20 minutes.
Anissa Haddadi nous rejoint. Bonjour Anissa.
Bonjour Alexandre, bonjour Omblin, bonjour à tous.
Anissa, votre histoire dingue à 5h15, c'est celle d'un couple d'Américains à qui il arrive en même temps, j'ai l'impression, la meilleure et la pire des nouvelles. Ils gagnent le million à la loterie.
Absolument.
Et en même temps, ils risquent 30 ans de prison.
Non, ça rigole pas aux États-Unis, mais avaient-ils vraiment gagné le million à la loterie? Ou ont-ils tenté le diable? Il y a un loup sous cette histoire. Les deux histoires sont liées, mais aujourd'hui, eh bien, ils attendent leur jugement et risquent 30 ans de prison, effectivement.
Vous nous racontez ça à 5h15. Côté ciel, Anissa, il a neigé hier dans le Doubs ainsi qu'en Corse du Sud.
Oui.
Comment s'annonce ce jeudi?
Oui, ça reste perturbé. Hein,
ça reste perturbé.
Ouais, un petit peu moins hivernal parce que les températures, elles se radoucissent très légèrement. C'est-à-dire que ce matin, nous avons 0 degré à Dijon, 2 à Clermont-Ferrand et Rouen, 6 à Paris, 12 à Bastia. Cet après-midi, 10 à 19 degrés. Hier, on avait 6 à 18 degrés. Donc, vous voyez que c'est vraiment une hausse des températures qui est très légère. En revanche, dans le ciel, ça reste toujours perturbé et hivernal avec entre les Pays de la Loire, les Côtes de la Manche, les Hautes-Fontaines,